page 306, on est dans notre deuxième cours sur Kuntras Acharon. Cours très intéressant, cours très important, dans lequel l'Admour HaZaken va nous parler de deux notions. La première notion,
on dédie ce cours à l'Unishmat.
Bien sûr, comme on a dit dans le SMS, on dédie ce cours à l'Unishmat, le Rav Gaon, Rav Ovadia Yosef, qui est enterré actuellement.
Ah, ils n'ont pas encore enterré ?
C'est en cours là, c'est, ça doit être
rentré dans le. Il a dit qu'il est pas fait. À 18h.
Ah, c'est en cours là maintenant encore. Ça a duré très longtemps l'éveil.
Hein. Bah oui, il y avait beaucoup de monde pour le.
Ah, ouais. Et oui, c'est énorme.
Le convoi, il n'avançait pas à cause
de. Mais il y avait de monde alors, finalement.
Je sais pas, on verra. Bah, à mon avis, ouais, il devait être pas loin d'un million. La police, c'est d'ici 100 000, ouais, il devait être pas loin d'un million. Bon, en tout cas, on va dédier ce cours les Lunishmato. Niftar Baruch Hashem de bonne vieillesse à 93 ans, mais c'est quand même douloureux quand un Talmid Chacham, quand un Tzadik qui part. Surtout un Talmid Chacham de son envergure, et que son mérite et le mérite de tous les tzadikim nous protège depuis en haut chez Akadosh Baruch Hu, et qui nous donne la possibilité de trouver la consolation ici-bas sur Terre. Alors, on a commencé la semaine dernière, on a fait un cours, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a fait un cours sur quatre lignes. Quatre lignes. Qu'est-ce qu'on a expliqué? En fait, dans ce Kuntras Acharon qu'on est en train d'étudier ici, cette lettre, on s'arrête sur deux notions, et ça va répondre à la question de David. Du coup, David, on va s'arrêter sur deux notions. La première notion, qu'on a développée longuement la semaine dernière, c'est comment ça se fait qu'il est important de lire les histoires de la Torah, comme ce qu'on fait actuellement dans la Parasha Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vaïra, la Torah nous raconte beaucoup d'histoires. On sait que derrière ces histoires se cachent des grands secrets de la Torah, mais concrètement, pour le commun des mortels, est-ce qu'on voit des secrets de la Torah? Non. On voit des histoires simples, des fois peut-être même un peu choquantes. Et donc la question qu'il a posée, il a dit finalement, est-ce qu'on peut dire que quand une personne étudie la Torah, sans forcément comprendre la teneur de ce qu'il est en train d'étudier, quelle valeur ça a? Et la semaine dernière, on a développé ça longuement avec beaucoup d'histoires, et il a développé une idée magnifique, il a dit qu'en vérité, chaque personne de nous, vous vous rappelez l'idée du backup, chaque personne de nous a une sorte de sosie en haut. Et tout ce que je fais ici-bas, c'est reproduit instantanément en haut.
Aussi bien qu'en bas.
Et donc, quand j'étudie la Torah en bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma Neshama en haut qui, elle aussi, est en train d'étudier. Donc, même si moi, quand j'étudie en bas, moi, je ne comprends pas à 100%, en haut, elle comprend.
Elle comprend.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en train de te dire, avance, fonce. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. En haut, il y a quelqu'un qui comprend. Maintenant, l'Admor HaZaken, aujourd'hui, va nous développer un grand ridouche. Très, très grand ridouche. Il va dire que tout ce qu'on a dit, qui est un peu une parole de consolation, qu'on nous a dit que t'inquiète pas, même si toi tu comprends pas, en haut ta Neshama comprend, avec l'idée qu'on a expliquée la semaine dernière. Ça c'est seulement dans le cas où j'étudie la Torah en pensée. Mais si j'étudie la Torah, bonsoir, mais si j'étudie la Torah en parole, là dans ce cas-là, ça a un effet encore plus fort. Alors là maintenant on va toucher aujourd'hui un deuxième sujet. Le sujet de la semaine dernière c'était l'importance d'étudier, même si on comprend pas forcément le sens profond. On dit c'est pas grave, étudie, quand tu arriveras en haut, Akadosh Baruch Hu t'expliquera tous les sens profonds et ta Neshama maintenant elle comprend. D'accord. Mais là, aujourd'hui, on va développer une nouvelle notion. Si j'ai le choix entre étudier la Torah en pensée et étudier la Torah en parole, concrètement, ça veut dire quoi? J'écoute un cours de Torah, comme ce que vous faites maintenant. Donc, vous êtes en train d'étudier la Torah en parole ou en pensée?
En parole, ce que tu parles.
Non, moi, je parle, et vous?
On écoute. Nous, on écoute, mais on te répond. On
donc, vous étudiez la Torah comment?
Des deux manières.
Comment vous étudiez la Torah?
Active. En pensée.
En pensée, il a raison.
C'est interactif.
Non, c'est pas. Il a raison, c'est
quand
en pensée.
Tu poses des questions.
Quand j'écoute un cours de Torah, je suis en pensée. Une question, c'est une question, mais je veux dire, l'étude de la Torah, c'est en pensée. Des fois, je suis chez moi à la maison.
Pourquoi c'est en pensée quand il y a un cours, c'est en parole
là. Non.
Actuellement, là, c'est quoi?
Toi, tu n'es pas en parole, tu écoutes. Donc, qui c'est qui travaille? Non, pas d'échange. Tu poses des questions peut-être pour comprendre.
C'est que l'orateur qui.
Qui c'est qui travaille? C'est ton cerveau qui travaille, c'est pas ta bouche qui travaille. Ta bouche, elle est là peut-être pour clarifier certains points. Mais finalement, qui c'est qui travaille? C'est ton cerveau. J'ai pas dit que c'est pas bien. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on va expliquer qu'en plus de ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que quand j'étudie, en parallèle au fait que j'étudie, en même temps ma Neshama étudie, quand je vais étudier la Torah en parole, il y aura de nouvelles choses qui vont se passer. Ça veut dire que quand je suis concrètement chez moi à la maison, je sors un livre, je lis un livre, je lis avec la pensée ou avec la parole?
Pensée.
Je lis avec la pensée.
D'accord? C'est plus la pensée, oui.
Et ben, on va expliquer qu'il y a une qualité particulière quand on étudie la Torah en parole. Et c'est pour ça, ne soyez pas choqués. Si vous voyez des gens, des fois, étudier la Torah tout seul, et ils parlent.
Ils parlent.
Mais pourquoi ils parlent?
Il y a haute voix.
Pourquoi ils parlent? On n'a jamais vu les gens. Imaginez, vous rentrez dans une bibliothèque nationale, ou je sais pas où, et vous voyez des gens en train de lire un livre à voix haute. Tu vas le prendre pour un fou?
Non.
N'est-ce pas?
Non.
Bon, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, quoi.
Ça pour se concentrer.
Et on dit qu'il doit, Dieu, qu'il doit le.
C'est ça la question? Ah voilà, c'est, je te dis qu'on est arrivé.
Il l'a mis devant lui.
Il l'a mis devant lui.
Il faut connaître aussi. Si vous connaissez pas, c'est la peine.
À ceux qui connaissent pas, il faut pas toucher.
C'est vrai. Dis-moi pour les connaisseurs. Pardon.
Il faut pas voir
parce qu'après
ils vont.
C'est quoi? C'est. Bon, tu vas me donner. Alors
c'est quoi ça?
Il y a pas d'eau.
C'est quel bracha?
Chacol.
C'est quoi? C'est la même chose que ça?
C'est du thon.
C'est pareil.
C'est du thon ça?
C'est des œufs de thon séchés.
Donne le goût de thon.
Si t'aimes pas la
parce que ça.
T'aimes ça ou pas?
Ah oui, c'est fort.
Voilà. C'est
fort, hein?
Ça va être compliqué.
Tu demandes.
Ah, c'est fort.
Si t'aimes pas la dernière fois, tu peux aimer ça ou pas?
Je prends quelle
heure? Quoi que.
On va goûter.
Faut être amateur de poisson.
C'est quoi ça? C'est quoi?
Tu vois.
On l'a branché, il a dit je vais l'envoyer. Moi, je vais honorer aussi ça.
Encore,
très bonne. Hein. Encore, elle est pas trop salée.
Excellent.
Ah, d'accord.
On peut pas changer
les kilos.
C'est un peu fort, ouais.
Ça, c'est les salades. Même.
C'est ça, autant?
Non, ouais, ça c'est
au milieu. Mais je dis la même chose que ça, mais autant.
Alors
bon.
Attends, je vais manger un petit truc là, parce que sinon, ça va pas réussir.
Ah, c'est un échama qui prend un coup. Un bon.
Alors, on continue. Prends juste un peu de gâteau là, parce que sinon.
Ouais. Hein.
C'est un somme, ça.
Il en a mis un peu d'eau quand même. Qui enlève ce goût.
Non, ça va, ça va. Bon. Dégoûté ou pas le.
Ouais.
Ah, c'est pour les.
Ça, VIP. Avec,
parce que... ça c'est pour les.
C'est VIP, ça.
Ceux qui n'ont pas d'haleine. Mangez ça.
Ok. Alors, on est en train de dire. Dit l'Admorazaken. Donc, suite au cours de la semaine dernière. Dans lequel on a expliqué qu'il y a une importance d'étudier la Torah. Même si on ne comprend pas le sens profond. Parce que Maneshama, en même temps, elle étudie en haut. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Ce qu'il va expliquer maintenant. C'est que, à part ça, quand une personne étudie la Torah en parole, il atteint beaucoup plus de choses.
Donc t'es à la maison, il est 1h du matin et tu parles.
Mais il va expliquer maintenant que c'est pas que sur l'étude de la Torah. Quand par exemple, je pense une mauvaise chose, ou je dis une mauvaise chose, quel est le plus grave?
Le dire.
Pourquoi c'est plus grave?
Tu blesses plus la parole.
Mais attendez, mais non, imaginons que je suis tout seul dans la pièce, d'accord? Soit je pense dans ma tête, celui-là c'est un imbécile, soit je le dis, celui-là c'est un imbécile. Mais personne m'a entendu, je le dis. Alors toi tu dis c'est pareil, tu dis qu'est-ce que ça change? De toutes les façons, la pensée, je réfléchis avec des mots. La parole, c'est avec des mots, de toute façon il n'est pas là. Eh ben non. On explique dans Chassidout que les mots, quand une personne parle, automatiquement ça a un effet plus fort. Pourquoi? Il faut qu'on explique de manière plus profonde la différence qu'il y a entre la pensée et la parole. Normalement, les deux, et la pensée et la parole, les deux sont des mots. Alors quelle est la différence? La différence est très simple. C'est que quand on parle de parole, dibour en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire exprimer. Comme en français, c'est quoi la racine du mot exprimer? Ça veut dire que tu vas extérioriser quelque chose qui était à l'intérieur. Quelque chose qui a été comprimé à l'intérieur de toi, tu vas l'exprimer. Tu vas le faire sortir de toi. Donc c'est quoi la définition de la parole? C'est que j'exprime quelque chose qui est en moi. Je développe quelque chose qui est en moi. Chacun de nous, à l'intérieur de nous, on a des bons traits de caractère et des mauvais traits de caractère. Seulement ce qu'il faut essayer de faire, c'est que ça reste à l'intérieur. Tu maîtrises ça à l'intérieur et on fait ce qu'on peut à l'intérieur. Quand tu décides d'en parler, et encore plus quand tu décides d'agir, ça veut dire que tu as décidé d'exprimer ces traits de caractère. Voilà pourquoi on explique en Chassidout que parler une mauvaise parole, c'est plus grave que penser une mauvaise parole. Pourquoi? Parce que quand je dis une mauvaise parole, c'est pas seulement que je la pense, mais je l'ai exprimée, c'est-à-dire que je l'ai fait sortir, je l'ai développée, chose qui n'était pas dans ma pensée. D'un autre côté...
Même quand tu es seul.
Même quand je suis seul.
La parler, c'est
oui, parce que le fait de le parler, je l'ai exprimé. D'ailleurs, on le voit quand une personne, des fois, est énervée, il va se mettre à crier.
Ouais.
Le fait de crier, qu'est-ce qui va se passer? Il va sentir qu'il s'est... Il s'est soulagé, il s'est dégagé. Pourquoi? Parce que le fait de sortir des mots, ça a exprimé. J'ai sorti quelque chose qui était comprimé à l'intérieur. On le voit, on le sent. D'accord. D'un autre côté, on explique au Chassidout que il y a d'autres points sur lesquels la pensée est plus grave que la parole. Que sur d'autres points, avoir une pensée pas cachère, c'est plus grave qu'une parole pas cachère. Parce qu'une parole pas cachère, tu l'as dit, c'est fini, tu l'oublies. Mais une pensée, comme c'est très proche de la personne et que ça attrape la personne, ça peut avoir un impact qui est très profond sur la personne. Une pensée non cachère peut avoir un impact qui est très très profond sur la personne. Ça veut dire comme ça, en clair. La pensée, c'est plus profond, c'est plus proche de la personne. La parole, c'est moins proche de la personne, mais on a dit, j'exprime la chose. Donc, ça a un impact qui est plus fort. Donc, chacun a sa qualité et son défaut. Pourquoi je parle de ça maintenant? La question se pose quand j'étudie la Torah. Est-ce que j'ai l'obligation d'étudier la Torah en parole? Non, j'ai aucune obligation. J'accomplis sans problème la mitzvah d'étudier la Torah en pensée. D'ailleurs, c'est pour ça que vous savez qu'avant d'étudier la Torah, on doit faire une bracha, une bénédiction. Cette bénédiction qu'on doit faire, on fait cette bénédiction, dès qu'on ouvre un livre et qu'on se met à lire, même juste en pensée, c'est-à-dire je lis avec mes yeux, avant de lire, je dois faire une bracha, parce que je fais la mitzvah d'étudier la Torah. Alors pourquoi c'est important de dire des divrei Torah? Parce que on explique que quand on dit des divrei Torah, quand tu dis des paroles de Torah, l'expression, le fait que tu as exprimé des divrei Torah, fait que ton corps se rappellera. Le fait d'exprimer quelque chose verbalement, ça aide à la personne à imprimer ça en soi, à le ressentir plus facilement. Je me rappelle quand j'étais à l'école, on disait que pour retenir quelque chose facilement, on lui donnait la technique d'écrire.
Ah, moi aussi, oui.
Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que quand le corps a participé, plus le corps a participé à l'effort donc de la réflexion, et plus ça facilite la mémoire. C'est comme ça, l'assimilation et la mémoire. Pourtant, je dis, mais quel rapport? C'est pas ma main qui va retenir? Si. Parce que le plus de sens qui participe, le mieux on retient.
C'est quoi, okay, la beracha qu'on fait?
Exactement.
Quelle est la beracha?
Asher ki deshanu v'zitav tivanu al divrei Torah.
Al divrei. Ah bon.
Alors, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Al divrei Torah. C'est quoi divrei? C'est quoi?
La parole.
Des paroles de Torah. Pourquoi les paroles? Ça répète les pensées. Pourquoi divrei Torah? Ça c'est encore un autre point. Ah
bah, mais quand tu dis ça, tu vas pas faire ça. Je dis pas divrei Torah.
Si.
Même si tu vas penser, tu
vas dire. Dans les brachot du matin, il y a une bracha qui s'appelle Asher Kidishenu Mizdavetivanu Al Divrei Torah. Pourquoi on dit Al Divrei Torah sur les paroles de la Torah? Puisqu'on vient d'expliquer qu'en vérité, on peut se rendre quitte de la misère d'étudier la Torah par là. Penser. La réponse est très simple. Parce que, écoutez juste deux secondes, je vais expliquer. Parce que, c'est uniquement sur la Torah orale que les Chachamim ont dit, si tu comprends pas, t'es pas quitte. Peu importe si tu l'as dit ou tu l'as pensé, ce qu'il faut, c'est le comprendre. Mais sur la Torah écrite, ça veut dire le Sefer Torah, il suffit de le dire. Même si tu comprends pas, t'es quitte. C'est la raison pour laquelle, quand on lit le Sefer Torah le Shabbat, même si on comprend pas ce qui est en train de lire, parce que c'est lu très rapidement, on fait la mitzvah.
Mais, par contre, on lit
parce qu'on fait des divrei Torah.
Par contre, est-ce que le fait
on a entendu les paroles.
Oui.
Il y a des synagogues rabbad maintenant, c'est mon copain qui m'a dit. Ils font la traduction du...
Ah ouais.
Oui, d'accord.
Simultané.
Alors, pourquoi pas, ouais, il n'y a pas de problème. À l'époque, l'Agmara, c'était comme ça. Oui.
Est-ce que le fait d'écouter, ça nous acquitte?
L'Agmara pose la question, elle répond que oui. Elle dit « Shomea qui en est ». Elle dit « Celui qui entend, c'est comme si il était en train de le dire ».
Mais bon, est-ce que ça parle même pas?
C'est la même chose. Pour la Torah écrite, c'est la même chose. Bonsoir, Baruchaba. Pour la Torah écrite, c'est la même chose.
Tu peux voir sur l'écran.
Shomea qui en est. Le fait d'entendre, c'est comme... Grâce à ça, on se rend quitte de la mitzvah de la Megillah, on se rend quitte de beaucoup de mitzvot. D'accord? Donc je reprends. La question qu'il pose ici maintenant, c'est, après ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que quand on étudie la Torah, même si on comprend pas le sens profond, c'est pas grave, Serge, parce que la Neshama en haut, elle est en train
d'étudier.
D'accord? En plus de ça, il va expliquer maintenant que si on prononce les paroles de Torah de manière verbale, alors là, à ce moment-là, ça aura un impact qu'il n'y a même pas besoin de dire c'est la Neshama en haut. C'est toi, ta Neshama en bas qui va le ressentir. Dire des paroles de Torah verbalement, ça nous aide à ressentir les choses. C'est-à-dire que concrètement, quand vous êtes chez vous à la maison, vous prenez un chumash, vous ouvrez un chumash pour lire quelques minutes, le fait de dire verbalement, de dire dans les mots, eh ben, ça va vous aider à mieux ressentir la chose. Ça, on va le développer aujourd'hui. Pourquoi?
Ouais, c'est pas fou, hein.
Attention, il faut s'accrocher aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on aura du Zohar. Là, il faut faire appel au Zohar, là, pour expliquer pourquoi. Pourquoi quand on parle, ça change quelque chose. Alors, on y va. Dis maintenant. Ah, ben voilà la citronnade. Voilà. Maintenant, dis.
Maintenant, tu comprends.
Ah, on comprend maintenant.
Ah, pardon.
Bon, vous m'excuserez les Tunisiens, mais moi, je suis. Ah.
David, je suis pas tunisien, mais je
donne une citronnade ici. Tiens, je vais ouvrir.
Oula. Allez, chazak à tous.
Merci beaucoup. Un gobelet s'il vous plaît pour mon ami Marcel. Un gobelet, merci. Bonsoir.
On continue. Alors on y va. Il reste un peu de temps.
Tonara.
Ah il y a les deux.
Tonara.
Goûte, tu vas comprendre.
T'inquiète,
bien.
Ok. C'est bon, on continue. Allez, on y va.
Le Chaim.
Donc, dit l'Admor Hazaken, on va développer maintenant la différence qu'il y a entre étudier la Torah en pensée et étudier la Torah en parole. Vous savez, c'est la raison pour laquelle, dans les yeshivot, on insiste beaucoup sur le concept de chavruta. C'est quoi la chavruta? C'est le binôme avec lequel on étudie. Et chacun parle. C'est très important, on parle. Il faut beaucoup parler. On étudie très peu en pensée. Maintenant, on va comprendre pourquoi. Parce qu'on va expliquer que quand on parle verbalement, quand on dit des divrei Torah verbalement, la Neshama le vit beaucoup mieux que si on le fait seulement en pensée.
En quelle langue? N'importe quelle langue?
N'importe quelle langue, peu importe. Le fait de l'exprimer, ça permet à la Neshama de mieux vivre. D'ailleurs, le Rabbi l'explique dans une sira. Il dit, c'est la raison pour laquelle on voit que lorsqu'un juif étudie la Torah, ou bien lorsqu'il fait la Tfila, on voit que les gens bougent. Remarquez, on bouge. Et ça, pareil, tu vas dans une bibliothèque. Imagine-toi, quelqu'un est en train de lire un livre de Voltaire, l'Avdil, et tu le vois en train de bouger comme ça. Tu vas le prendre pour un maboule.
Le corbeau et le renard.
Il y a un problème. Le corbeau et le renard. Il y a un problème. Alors, le Rabbi pose la question. Il dit, comment ça se fait qu'on voit que les gens, quand ils étudient la Torah, ils bougent? Et c'est presque une réaction naturelle qu'on a beaucoup de mal à maîtriser. C'est-à-dire presque à la limite, des fois, on dit que les tzadikim, par exemple, pendant la tfila, il y a des tzadikim qui font un effort pour ne pas bouger, parce qu'ils estiment que ça se fait pas de bouger. D'accord? Il y a des tzadikim, comme on voit chez le rabbi, par exemple, le rabbi ne bougeait pas dans cette ville-là, mais c'est un effort. Alors, le rabbi pose la question, il dit, mais comment ça se fait qu'on voit les gens instinctivement pendant leur prière, ils bougent, et pendant la Torah aussi? Et il répond, il dit, parce qu'en vérité, c'est écrit, Ner Hashem Nishmat Adam, que la Neshama est comparée à une bougie. De la même manière qu'on voit que la flamme de la bougie, elle bouge constamment. Pourquoi elle bouge? Parce qu'elle veut toujours partir. Tant que tu l'attrapes pas, tant que tu l'attrapes avec une mèche, elle tient. Dès qu'il n'y a plus de mèche, dès qu'il n'y a plus de combustible, qu'est-ce qui se passe? Elle s'en va. Donc c'est pour ça qu'elle bouge. Pourquoi elle bouge? Je parle pas du vent, hein. Même s'il n'y a pas de vent, tu regardes bien, tu vois bien, elle bouge toujours un petit peu. Pourquoi elle bouge? Parce qu'elle n'est pas tranquille, elle n'est pas dans sa place, elle veut partir. Alors dis le rabbi, c'est la même chose. Quand un juif est dans le business, il est dans le business. Quand il est dans les choses de tous les jours, il est dans les choses de tous les jours. Mais quand il étudie la Torah, quand il fait la tfila, sa neshama, elle se rappelle d'où elle vient. Et comme la neshama, elle se rappelle d'où elle vient, elle bouge, elle dit, c'est là-bas que ça se passe. Et c'est la raison pour laquelle. De quoi?
Un petit peu de mimétisme aussi.
Il vient pas de nulle part. D'où ça vient?
T'as vu quelqu'un et...
Mais c'est presque instinctif.
Si t'as un goy qui fait ça.
Quoi? Après, exactement, comme il a dit, on peut imiter. Mais il y a une raison. Ça, le rabbi, il tire ça du Zohar. Il dit qu'il amène ça dans le Zohar. Il dit qu'on voit que pourquoi la personne est instinctivement envie de bouger, parce que comme sa neshama est en train de vivre le moment, alors sa neshama a envie de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, elle comprend que c'est en haut que ça se passe, comme la flamme qui est en train de bouger, parce qu'elle a envie de retourner à sa source, elle a envie de partir vers les courants d'air chaud qui sont en haut, selon le Rambam, c'est autour de la lune. Bon, ça c'est peu importe, on va pas développer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on veut expliquer maintenant, c'est que c'est important quand on étudie la Torah d'essayer de le faire dibour avec la parole. Donc il va expliquer ici maintenant. Alors là, j'ai pas encore commencé dans les mots. Vechen Yeshlomar. Vous prenez la page 306. Page 306.
Ligne 4.
Deuxième ligne.
Ligne 2.
Vechen Yeshlomar. Il faudrait expliquer ainsi. Beir Ur Beotiot Aktuvot. Que la différence qu'on a expliqué la semaine dernière, qu'on a dit que donc, quand une personne étudie la Torah, même s'il comprend pas à 100% ce qu'il étudie, on a dit c'est pas grave, parce qu'au même moment où tu étudies, ta partie de la Neshama qui est en haut, qui elle est en train d'étudier, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, ça, on a besoin de trouver cette consolation seulement quand une personne étudie seulement en pensée. Que là, quand il étudie en pensée, c'est là qu'on dit bon, écoute, t'inquiète pas, toi tu comprends pas trop, mais en haut ta Neshama elle comprend et un jour tu comprendras. Ah bah la dibour, mais lorsqu'une personne dit des divrei Torah, lorsqu'une personne va le dire avec sa bouche, Yeshlomar, là il faut dire déboké à Vesalik. Que là, à ce moment-là, ces paroles de Torah, c'est pas seulement que ça se passe en haut. Non. Les paroles de Torah qu'on est en train de dire vont fendre les cieux pour aller jusqu'à chez Hachem. C'est-à-dire qu'il y a un effet sur la Neshama, il y a un effet qui se passe dans le monde entier. C'est pas simplement un effet miroir, comme on a expliqué la semaine dernière, que je dis le Dvar Torah, en haut c'est répété dans ma Neshama, et donc en haut il se passe des choses. Non. Quand je dis un Dvar Torah avec ma bouche, Dvar, ça veut dire exprimer, faire sortir quelque chose. Donc j'ai comme une sorte d'énergie qui sort de ma Neshama, et qui va jusqu'à chez Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à où elle va cette énergie? Là, il va expliquer que ça va dépendre comment tu étudies. Il va développer trois niveaux. Tout à l'heure, on a dit que ce cours-là va être dédié à l'Eilul Nishmat, le Rav Ovadia Yosef, qui nous a quitté aujourd'hui. Et là, on va expliquer comment quand on étudie la Torah, on peut avoir trois niveaux, peut-être même quatre niveaux, qui vont correspondre aux quatre mondes qu'on appelle dans la Kabbalah de Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, c'est le niveau le plus haut, c'est le niveau de Tzadikim. Bria, c'est le niveau d'en dessous. C'est le niveau de la création. Yetzira, c'est la formation. Et Asiya, c'est la création matérielle. Je vais expliquer tout ce que ça veut dire. Il dit comme ça. Il dit, quand tu étudies la Torah, il y a quatre niveaux. Il y a comment les tzadikim étudient la Torah. Ils étudient la Torah d'une manière que c'est même pas qu'on peut parler d'amour et de crainte de Dieu. Non, c'est même pas ça. C'est qu'ils sont, comme dit le Zohar, comme une merkava. Ils sont tellement annulés, ils sont tellement annihilés devant Dieu, qu'ils sont presque comme le char d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Le Zohar, il dit comme ça. Il dit, imagine-toi un char, t'as une roue, tu tournes, imagine-toi, voilà, on va moderniser l'exemple. Je suis dans ma voiture, je tourne le volant. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Les roues, elles tournent. Est-ce qu'on va dire, ouais, t'as vu les roues, on leur a demandé de tourner, elles ont tourné. Voilà. C'est normal, c'est évident, t'as tourné, elles ont tourné. Ben, dit le Zohar, que les tzadikim, ils sont tellement annulés devant un Kadosh Baruch Hu, que pour eux, il n'y a même pas un temps de réflexion en se disant, Dieu a demandé, je vais le faire. C'est automatique. Il n'y a pas de propre volonté. Dieu a demandé de le faire, donc ça sera fait. C'est tout. Dieu a demandé de tourner à droite, et ben ça va tourner à droite. C'est comme le volant qui a tourné. Le volant, il a tourné. La roue, elle va tourner. C'est pas peut-être elle va tourner, peut-être elle va pas tourner. Baruch Hashem, elle a tourné. Non. Ça, c'est le niveau des tzadikim. Que les tzadikim, ils ont un tel niveau d'approche d'Akadosh Baruch Hu que ça veut dire à la limite, on sait même pas si on peut le récompenser. Parce qu'il n'y a même pas eu d'effort. C'était automatique. Ça, c'est le niveau le plus fort, qui est vraiment le niveau des grands tzadikim, qui n'ont même pas besoin de faire un travail pour suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Après, il y a un deuxième niveau. Deuxième niveau qui est juste en dessous, qui est aussi fort, mais qui est un deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est quand on doit déjà se travailler pour aimer et craindre Akadosh Baruch Hu. Aimer Akadosh Baruch Hu pour accomplir les mitzvot positives, craindre Akadosh Baruch Hu pour ne pas commettre les mitzvot négatives. Mais là, il explique la Gemara Zaken, dans l'amour et la crainte, il y a deux catégories. T'as des gens qui ont un amour et une crainte innée. C'est-à-dire qu'ils naissent dans leur éducation, instinctivement. Bon, ils savent très bien que les mitzvot positives, on doit les faire, les mitzvot négatives, on ne doit pas les faire. Il n'y a pas eu de travail pour ça. D'accord. Il y a d'autres personnes qui vont faire un effort pour ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire un effort de réflexion, comme on l'a développé dans les cours d'avant. Ils vont faire un effort de réflexion pour se dire comment c'est important d'écouter ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, comment c'est grave de ne pas écouter ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Ils vont faire un effort de réflexion. Et donc là, on va avoir deux catégories. Première catégorie, c'est quand l'amour et la crainte a été généré par une réflexion. Deuxième catégorie, c'est quand l'amour et la crainte étaient automatiques. D'accord? On va essayer de donner un exemple. Imaginons par exemple quelqu'un qui a peur de quelqu'un d'autre. L'autre est violent et il a peur. Est-ce qu'il a besoin de faire un travail mental pour avoir peur de la personne? Non, t'as pas besoin d'avoir peur. Tu parles par exemple Ahmadinejad, il marche chez moi, voilà, il est en Iran. On s'en parle pas de juif. Il est en Iran. D'accord? Il y a pas une peur, mais il y a une crainte. D'accord, le Ham Israël a une crainte, on ne sait pas ce qu'il va faire le bonheur. Est-ce que j'ai besoin de travailler pour craindre? Pas du tout. Je sais que c'est un malade, je sais qu'il peut appuyer sur un bouton et qu'avec ce bouton, il peut faire sauter le monde entier, donc il y a une crainte. Et j'ai pas besoin de me travailler. Par contre, il y a des choses sur lesquelles il faut s'inspirer à la crainte et ça demande plus de réflexion. Par exemple, on explique en Chassidout, quand une personne, par exemple, doit s'inspirer à la crainte de son maître. Des fois, on arrive à une certaine proximité avec son maître et on oublie qu'il faut le craindre. Donc il faut réfléchir. Ça peut être aussi envers sa femme. Des fois, il y a une telle proximité qu'il oublie qu'il faut avoir la crainte. Pas la crainte dans le sens de la peur. La crainte, c'est le respect. Puis attends, dis-moi, c'est pas parce que c'est ta femme que tu fais ce que tu veux. Mais ça, hein, c'est plus compliqué. Quand c'est une crainte qui doit venir avec une réflexion, je dois me réfléchir, qu'est-ce que ça représente pour moi, et pourquoi je devrais le craindre, et pourquoi je devrais l'aimer. Quand c'est quelque chose qui est réfléchi...
Donc là, ça fait intervenir le libre.
Ah, bien sûr. Donc là, l'Admor HaZaken, il dit comme ça. Nous avons quatre niveaux. Premier niveau, c'est les tzadikim, on l'a dit, c'est comme le char. C'est bon, il y a presque pas de libre avis, quoi. Ça veut dire que Dieu, il a demandé, ça sera fait. D'accord. Ça, c'est une proximité énorme avec Akadosh Baruch Hu. Comme Avraham Avinu, comme Yitzhak Avinu, etc. Deuxième niveau, c'est ceux qui ont un amour et une crainte générés par leur cerveau. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi, de manière à ce que leur cerveau a compris qu'il faut aimer Dieu et craindre Dieu et qu'ils le vivent au jour le jour. Alors il y a quand même un petit temps de réflexion. C'est-à-dire Dieu a demandé, ça sera fait instantanément, mais il y a quand même un petit temps de réflexion de dire, bon, Dieu a demandé, je le fais pas. Mais il y a un temps de réflexion. C'est le deuxième niveau. Troisième niveau, proche, je le mets en troisième, c'est ceux qui ont l'amour et la crainte de Dieu, mais c'était automatique. Donc, puisque c'est automatique, il n'y a pas de mérite. Quelqu'un, le gars, il est né dans une famille religieuse, il a toujours été entouré de gens religieux, toujours dans la yeshiva, toujours dans le kollel. Bien sûr, le bonhomme, c'est parce que c'est la faute. Évidemment qu'il ne faudra pas.
Ça s'apparente au premier niveau, ça.
Donc ça, alors justement.
Ça s'apparente au premier niveau.
Non. C'est pas le premier niveau. Pourquoi? Parce que dans le premier niveau, il n'a même pas de réflexion. Là, dans le troisième niveau, il a une réflexion, mais il dira bon. C'est un peu mimité tout à l'heure. Tu dis, comme je suis habitué à le faire, donc je vais le faire. Ça, c'est le troisième niveau. Et enfin, quatrième niveau, c'est ceux qui font par routine.
Par routine.
Ça veut dire qu'il a ni l'amour, ni la crainte, ni inné, ni réfléchi, ni automatique. C'est une routine. Bon. Comme par exemple, il va se lever le matin, il va mettre les tefillines, il va faire cette fila, ça va durer une heure et demie, il sort de la synagogue, il dit, mais attends, mais mince, ça fait une heure et demie que je suis réveillé, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'a rien vu passer. C'est vraiment une routine. Ça, c'est le quatrième niveau. Ça nous arrive à tous, on est d'accord. Alors, dit l'Admor HaZaken, c'est la même chose quand tu vas étudier la Torah. On a dit que quand tu as une pensée de Torah, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, au même moment, la Neshama en haut est en train d'étudier. Donc ça veut dire que moi, je le ressens pas, mais ma Neshama en haut est en train d'étudier ce que moi j'étudie en bas, et elle comprend. Ça, c'est quand tu as une pensée, que là, on te dit, bon, même si tu n'as pas compris, ta Neshama en haut, elle a compris. Mais quand tu tiens un Dvar Torah, quand tu fais une parole de Torah, forcément, tu atteindras un de ces quatre niveaux. C'est-à-dire, soit tu le fais par routine, dans ce cas-là, tu seras au niveau numéro 4, soit tu le fais par routine, mais quand même, cette routine t'a inspiré un amour et une crainte. C'est-à-dire, tu as quand même ressenti un petit peu, là, t'es au niveau numéro 3. Soit tu as un amour et une crainte, mais qui ont été travaillés dans ton cerveau. Ça, c'est déjà plus fort. T'es au niveau numéro 2. Soit t'es à un niveau tellement fort, que c'est même plus de l'amour et de la crainte, c'est de l'automatisme. Ça veut dire que c'est pas de la routine. C'est que, toi et Dieu, tu formes une seule chose. Ça, on dit par exemple, on dit à propos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans la paracha du schéma, il dit, Venatati Esev Vesadecha. Il dit, je donnerai la récolte dans ton champ. Et la Gemara pose la question, elle dit, mais c'est Moshe qui parle. Moshe Rabbeinu dit, je donnerai la récolte dans ton champ, mais Moshe, il donne, c'est pas Moshe qui donne, c'est Dieu qui donne. Il dit la Gemara que Moshe Rabbeinu était arrivé à un tel niveau, Shrina Medaberet Mitor Grono. C'est la Shrina qui parlait de sa gorge. C'est comme une voiture, c'est-à-dire, t'as tourné le volant, la roue, elle a tourné. Il n'y a pas de dire, attends, j'ai tourné le volant, peut-être elle va tourner, peut-être elle va pas tourner. Ça, c'est le niveau des grands tzadikim. Et là, ce qu'il veut expliquer ici, c'est que quand on étudie la Torah en parole, forcément, on atteindra un de ces quatre niveaux. C'est-à-dire que forcément, on aura une de ces quatre expériences. Soit, je le vis au niveau numéro 4, soit au niveau numéro 3, ça veut dire, je répète, c'est l'amour et la crainte innée. Niveau numéro 2, c'est l'amour et la crainte travaillée, c'est-à-dire que je travaille mon cerveau. Soit niveau numéro 1, c'est je suis complètement attaché avec Akadosh Baruch Hu. Mais j'aurai un de ces quatre niveaux. Par contre, quand j'étudie la Torah que en pensée, je touche, juste deux secondes, je termine le développement. Quand j'étudie la Torah uniquement en pensée, là j'ai aucun de ces quatre niveaux. Ma Neshama en haut, elle comprend. Mais j'ai sauté les quatre niveaux. Voilà pourquoi.
On a dit ça la semaine dernière.
Voilà.
Une semaine encore.
Attends. Wow. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'étudier la Torah en parole. Divrei Torah. On parle de divrei Torah, de parole de Torah. Tu comprends? C'est ça l'élément qui manquait.
Bon, une fois qu'on a atteint ces quatre niveaux, ça nous sert à quoi?
Quelque chose, cette semaine.
Une fois que, dans le second,
on a atteint un de ces quatre niveaux, ça nous sert à quoi?
Non, c'est ça. La question est jusqu'à quoi? La question, c'est déjà pas mal. La question qu'on se dit, c'est que, la question que tu poses, tu dis qu'est-ce que ça change? Ce qui va changer, c'est jusqu'à combien je vais vivre l'événement? Jusqu'à combien je vais vivre l'étude de la Torah?
Il y a deux points. Quelqu'un qui se travaille, c'est-à-dire qu'il a une médecine ou qu'il a, il sent une existence qui est, faussement séparé de Dieu, parce qu'il croit qu'il a la possibilité.
Les trois derniers niveaux ont ça, la médecine.
Attends, le niveau numéro 2, c'est ça, c'est le niveau du Benoni. Celui qui se travaille.
Non, on rentre pas dedans. Non. Les trois niveaux. Dans les trois niveaux, on se ressent sa personne.
Est-ce que les quatre niveaux sont déjà au niveau du Benoni?
Ah non, ça n'a rien à voir avec Benoni, pas Benoni. La question est, comment je me sens par rapport à Dieu?
D'accord.
Est-ce que c'était juste de la routine? Est-ce que, bon, je l'ai fait parce que j'ai ressenti un petit peu, mais c'est aussi de la routine, donc c'est déjà un peu mieux. Ou bien, est-ce que j'ai travaillé l'amour et la crainte? Ou bien, est-ce que carrément, tellement je suis arrivé à un tel niveau que j'ai même plus d'existence propre? Il n'y a que le quatrième niveau dans lequel j'ai plus de métier ou j'ai plus d'existence propre. Dans les autres, il y a quand même un laps de temps de réflexion.
Tu peux l'avoir, et même si même personne peut l'avoir.
Oui, tout le monde peut l'avoir.
Et même
ouais.
si tu fais les choses par mimétisme, si c'est de la routine sur le coup.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça c'est la question. Ça c'est sa question. La question dit qu'est-ce que ça change? Bah, ce qui change, c'est que quand j'étudie la Torah en parole, j'aurai au moins un de ces quatre niveaux. C'est-à-dire, je vais toucher au moins un de ces quatre niveaux pour ressentir la Torah. Alors que quand je le fais qu'en pensée, ça va rester un petit peu abstrait. Je vais ressentir un certain vide. Ma neshama, elle va suivre en haut.
Mais ça me fait clinquer une mitzvah supplémentaire ou alors aucun rapport?
Non, ça n'a rien à voir. Là, on est simplement sur le ressenti. C'est simplement sur le ressenti. La mitzvah exactement la même. La mitzvah, c'est la même. Étudier la Torah en pensée ou étudier la Torah en parole, c'est exactement la même mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah différente.
Le salaire n'est pas différent.
Non, c'est la même mitzvah. Mais on conseille d'étudier en parole, ou au moins de réviser en parole, parce que d'abord, ça, comme on a dit tout à l'heure, ça favorise la mémoire. Et surtout, ça nous permet de mieux vivre la chose. Quand tu dis quelque chose, tu le vis mieux. Tu le vis mieux dans un de ces quatre niveaux qu'on a expliqué ici. Donc quand on écoute ça maintenant... On peut avoir l'impression qu'entre la parole et la pensée, qu'est-ce qui est plus important? C'est la parole. D'accord? Ça, c'est la première approche. Vous allez voir qu'après, à la fin de ce chapitre, il va retourner un peu la situation et il va dire que d'un autre côté, sur d'autres éléments, la pensée est plus importante. C'est là qu'on va arriver à ta question, David, la semaine dernière. Parce que David, la semaine dernière, il a posé une question qui est très importante.
Voilà, ça m'a répondu, hein.
Non, on n'a pas répondu du tout encore. Finalement, le conflit qu'on a posé la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de la notion de est-ce que le plus important, c'est d'agir, ou est-ce que le plus important, c'est la kavana.
Ouais.
C'est un petit peu le même conflit qu'il y a entre la pensée et la parole. Est-ce que le plus important, c'est de dire la chose, ou le plus important, c'est marchava, de le penser, de le comprendre? T'as des gens qui vont dire, écoute, pourquoi tu ne sais rien de lire? Ce qui compte, c'est prendre le temps de lire dans ta tête et de comprendre. Marchava. Alors, pour l'instant, ce qu'il explique ici, c'est que dans la Torah, on encourage fortement à dire des choses, même sans forcément les comprendre, parce que le fait de le dire fait que tu vis la chose. Mais vous verrez qu'à la fin du chapitre, il expliquera que concrètement, une personne qui veut ressentir pleinement les choses doit aussi passer du temps pour réfléchir à ce qu'il dit. Donc, la marchava, la pensée, doit être complémentaire du dibour. Mais pas le contraire. Vous me suivez? C'est pas le contraire. C'est pas d'abord je réfléchis et après s'il faut j'en parlerai. Non. La Torah ça marche en contraire. D'abord tu en parles. Parle. Essaie d'exprimer un maximum. Et après, pour compléter cette parole, tu vas essayer de réfléchir à ce que tu as dit. C'est ma mâche qu'on fait dans la tefila. Honnêtement, sur toute la tefila qu'on dit, combien de pourcents on réfléchit? Honnêtement, combien de pourcents on réfléchit? Combien de pourcents? On va dire comprendre les mots c'est une chose, mais dire je prends du temps de réfléchir à ce qu'on dit. Si tu fais 20%, c'est déjà énorme. Réfléchir, je parle, pas juste comprendre la traduction des mots. Tu vas dire.
Ça veut dire quoi
réfléchir? Réfléchir. Alors, tu dis mais attends, à quoi ça sert? Tu dis des textes, à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est quoi la réponse? La réponse c'est que c'est pas grave. Quand une personne dit quelque chose, sa neshama, elle vit l'événement. Alors que quand tu l'as juste pensé, ta neshama ne peut pas vivre l'événement. Il faut le dire verbalement. Voilà pourquoi on parle pour toujours de divrei Torah, de divrei tefila, il faut le dire.
Donc en pensée, finalement, on gagne quoi?
Rien. Ah, c'est ta question, j'attendais cette question. Il va expliquer à la fin du chapitre qu'en pensée, on va gagner d'autres choses. C'est que la pensée est plus profonde. Quelque chose auquel tu as réfléchi,
ça ancre davantage les choses.
Oui, par de l'étude aussi. Imagine-toi que je prends un texte. D'accord, de Chumash. Et je le dis. Qu'est-ce qui se passe? Comme ce qu'on fait le samedi matin. Qu'est-ce qui se passe? Ma neshama vit l'événement. C'est parfait. Mais il y a un problème. C'est que c'est pas durable. Parce que je l'ai pas, c'est vrai que ma neshama a vécu l'événement. Mais j'ai pas, mon corps ne l'a pas ressenti. Mon corps, non, ça s'en va dedans. Il va expliquer après des notions très basiques. Ma neshama n'est pas, je ne sens pas que j'ai vécu l'événement. C'est pour ça que c'est important de marier les deux. Et c'est ce qu'on fait un petit peu ici. Ça veut dire que, d'un côté, on a des cours de Torah, dans lesquels on essaie d'avoir marshava, c'est-à-dire d'essayer de comprendre la parasha de la semaine, par exemple. Et d'un autre côté, on a du dibour. Du dibour, c'est la lecture de la parasha de la semaine, au Sefer Torah. Il faut toujours marier les deux, parce que chacun a sa qualité, le dibour et la marshava. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va développer ces notions que j'ai expliquées brièvement. On va les expliquer maintenant dans les mots. Donc la question, c'est entre la pensée et la parole, lequel est le plus important? Pour l'instant, on est en train d'expliquer l'importance de la parole. Pourquoi la parole? Parce qu'on a dit que la parole nous donne la capacité de vivre l'événement au moins sur un des quatre niveaux. Donc ces quatre niveaux, on va les développer tout de suite. Alors, Aval à Dibourg, donc je suis à la
troisième ligne.
306. On va pas faire quatre lignes aujourd'hui. Alors, Aval à Dibourg, mais la parole. Yesh Lomar, Deboke à Vesalik, Léatilut Mamash. La parole va arriver quand une personne va dire un Dvar Torah. Il aura un de ces quatre niveaux. Soit le premier niveau, l'Atzilut Mamash, le niveau de Atzilut. Atzilut, comme on a expliqué, c'est le niveau des gens qui forment un seul corps avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier niveau. Ou bien, Bria. Ou bien, au deuxième niveau, au niveau de Bria, ça c'est Bitrilu Uchimu Sirlim. Ça c'est quand c'est pas automatique comme chez le Tzadik, mais j'ai l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu qui ont été travaillés dans mon cerveau. C'est-à-dire que c'est vraiment bien, bien, bien ancré dans moi. Ça, c'est le deuxième niveau, niveau numéro 2. Ou bien, ce qu'il dit ici, Yetira. Ou bien, on est au troisième niveau. C'est quoi le troisième niveau? Bitrilu Uchimu Tivim. C'est quand j'ai l'amour et la crainte, mais qui n'ont pas été travaillés, qui sont innés. Ça, c'est moins fort, parce que je ne me suis pas travaillé pour l'avoir. Ça, c'est le niveau numéro 3. Ou bien, ou Bemikra, des Salik Merola Mazé, le Yutfirot d'Asiya. Ou bien par routine, si j'étudie par routine sans même comprendre ce que je lis, que là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'atteins le quatrième niveau. Mais vous remarquez ce qu'il dit ici? Que ça, c'est seulement dans le Mikra. C'est quoi le Mikra? Mikra, c'est quoi le Mikra? Mikra, c'est le Chumash. Ça veut dire que je fais une mitzvah sans comprendre. Je fais une mitzvah en lisant la Torah sans la comprendre, seulement dans le Chumash. Mais si je me lève le matin, je prends une Gemara, et je me mets à lire, à débiter sans comprendre, je ne fais pas de mitzvah.
Mais la Shavadou, elle comprend pas.
Oui, elle comprend, mais je ne fais pas de mitzvah. Dans la Torah orale, il faut au moins un des trois premiers niveaux. C'est-à-dire, soit tu formes un seul corps avec Akadosh Baruch Hu, soit tu te travailles pour vivre l'événement, soit, comme on a dit, c'est inné. Mais il faut quand même que tu essaies de comprendre ce que tu dis. Tu veux pas... Mais par contre, dans le Chumash, même si tu es au niveau numéro 4, c'est-à-dire tu le fais par routine, tu es passé complètement à côté et tu n'as rien vu, c'est pas grave, tu as fait la mitzvah. D'accord? Ça, c'est le Mikra, ça, c'est le Chumash. C'est pour ça que quand on lit le Sefer Torah, on est quitte, même sans comprendre. Vous comprenez? Parce qu'on est au quatrième niveau. Alors, David, il a posé la question tout à l'heure, il a dit oui, mais concrètement, nous, quand on écoute le Sefer Torah, on le dit pas. Sur ça, la Gemara répond que Shomea Keone, que sur beaucoup d'Alachot, on dit que le fait d'entendre, c'est comme si qu'on le disait. Que le Chazan, quand il va rendre quitte les autres, il va les rendre quitte comme si eux-mêmes étaient en train de lire. Donc, ça veut dire que quand on écoute le Sefer Torah, on est au minimum au quatrième niveau. Minimum. Après, si on vit un peu plus l'événement, si par exemple on a étudié la paracha, on la ressent un peu la paracha, alors après, selon notre niveau, on va monter à niveau numéro 3, niveau numéro 2 ou niveau numéro 1. Mais au minimum, on aura le niveau numéro 4. Ça, c'est quand on dit la Torah, bedibour, par la parole. Donc, dans les mots ici, Mishum debaka avirin. Ça, c'est une phrase du Zohar. Le Zohar dit que la parole a cette capacité de fendre les cieux. De fendre les cieux. Ça, on le connaissait à propos de la tfila. On dit que les mots de la tfila, les mots de Tehilim, les mots de la tfila ont la capacité de fendre les cieux.
Pour les enfants.
Pour tout. Pourquoi?
Qui par les enfants?
À porte de tous, tout le monde. C'est écrit comme ça. La Gemara a dit, voilà, par exemple, on a vu aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui ont prié pour la Refoua Shlema d'un Rav, et la Refoua Shlema n'est pas arrivée. Alors la question qu'on se pose, c'est alors, où sont parties toutes ces prières? La Gemara pose cette question. Ouais. La Gemara dit, quand on fait une prière qui n'a pas été écoutée? Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos prières sont parties pour rien? La réponse est la suivante. C'est qu'il n'y a aucune prière qui part en vain. Seulement, ce que nous, on ne maîtrise pas, c'est quel sera le résultat de la prière. Des fois, le résultat de la prière, c'est ce que moi je demande. Des fois, ça peut être autre chose. On peut donner un exemple comme ça. C'est comme je fais un placement en banque. Le placement, c'est un placement. Maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer avec ce placement? Dans quoi le banquier va décider de le placer? Ça, c'est le problème du banquier. La Gemara dit clairement, dans Brachot, elle dit, il n'y a aucune tfila qui part en vain. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune tfila qui est partie en vain. Dieu écoute toutes les prières et chaque prière a son effet. C'est un compte en banque. Après, qu'est-ce que le banquier a fait? Ça, c'est son problème. Est-ce que peut-être il va l'investir sur les enfants ou sur les petits-enfants ou sur, bon, enfin, chacun avec ce qui peut le concerner.
J'ai lu que finalement, Moshe Rabbeinu, finalement, il est en Eretz Israël. C'est là où elles ont été, ces 515 pilotes. C'est qu'il voulait rentrer en Eretz Israël.
Le rabbi qui dit ça, ouais.
Donc, comme
comme sa pensée était là-bas, alors.
Mais je sais plus quelle tribu qui n'est pas rentrée en Eretz Israël.
Ah ouais. Gad et Reuven.
Voilà, ben finalement, c'est là où Moshe a été enterré. Donc finalement, ça a été rattaché à Israël.
Oui, mais il n'est pas rentré en Israël quand même. Bon,
j'ai entendu que.
C'est un commentaire du rabbi, ça. Mais concrètement, il n'est pas rentré en Israël, Israël. Il est rentré dans ce qui a été annexé à Israël.
Attends,
Mais c'est bon, c'est à mi-chemin.
Non, non, pas
Israël. Et là, c'est pas Israël.
Ils sont pas 115 kilos de
moins. Après beaucoup d'avis, c'est pas Israël.
C'est les dames.
Et c'est tant mieux d'ailleurs. Alors, bon.
C'est quoi, non, c'est moi, je m'envoie, c'est quoi ce Israël?
Mais c'est pour ça que c'est rendu. C'est du difri.
Et là, tu n'es pas Israël.
Oui, aujourd'hui, c'est déjà quoi? Non, c'est quoi? C'est pas dans la première carte
de la Torah, dans le, la Torah.
Ah oui, d'accord. N'a pas donné, d'accord.
Dans la paracha Masré.
Il y a un détail exact.
La Torah nous a donné la cartographie très, très, très claire des barrières d'Eretz Israël. Oui, on s'en la connaît.
Apparemment, il y a plusieurs.
On sait?
Il y a des pays arabes dedans.
Oui.
Bien sûr, tout le monde.
Jordanie, le Liban et
tout. Oui, bah oui.
Jordanie, si.
Oui.
On dit que Elat, c'est pas Israël de la Torah.
Non, attention, doucement, il y a des avis. Il y a des avis.
Mais apparemment, d'après l'histoire du doute, le roi Salomon avait des mines à Elat.
Oui, mais la question est, est-ce que le roi Salomon est parti se servir là-bas parce qu'il avait besoin de prendre des choses, mais est-ce qu'il a annexé ça à Israël? Parce que des fois, on partait, par exemple, imaginez, c'est comme par exemple la France peut avoir des intérêts, je sais pas moi, dans, à l'île Maurice.
Dans les dom-toms.
D'accord?
Non.
Bon, c'est un mauvais exemple. Bon, dans les dom-toms. Mais c'est pas la France. C'est pas la France.
Si, si.
D'accord? C'est pas la France. On peut pas dire que c'est pas, ça fait partie de la France. C'est pas la France. Elle a des intérêts là-bas.
Haïti aussi.
Voilà. On parle de la métropolitaine, si tu veux. Ok, alors je reprends. Donc, on va revenir maintenant à ce qu'il dit ici. Quand on dit un dvar Torah, quand on dit une parole de Torah, une parole de Torah a cette capacité de fendre les cieux. Comme des mots de Tefila et des mots de Tehilim ont cette capacité de fendre les cieux. On connaît beaucoup ce qu'on a expliqué plusieurs fois, que le Baal Shem Tov, comment le Baal Shem Tov encourageait les juifs simples, qui des fois ne comprenaient, enfin, qui en général ne comprenaient pas ce qu'il disait, il leur disait, dites des Tehilim.
Sans les comprendre.
Même sans les comprendre. Bien sûr qu'ils ne les comprennent pas. C'est très compliqué de comprendre les Tehilim. Il y a très peu de gens qui comprennent les Tehilim. Il leur a dit, dites les Tehilim. Parce que les mots du Tehilim, les mots des Tehilim, Baka, Avirin, ça fend les cieux. Ben, ça, c'est applicable aussi quand on dit un Dvar Torah. Vous êtes Shabbat à la maison. Vous allez répéter un Dvar Torah à la table du vendredi soir. Peut-être que personne va comprendre ce que vous allez dire. C'est possible. Les enfants, ils ont la tête ailleurs. Madame, elle écoute à moitié, elle pense au repas. Pas grave. T'as parlé 30 secondes. C'est pas grave. Le fait d'avoir dit un Dvar Torah et pas d'être simplement avec un livre ouvert et regarder comme ça, le fait d'avoir dit un Dvar Torah, ça fait quelque chose. Même si tu crois qu'ils n'ont pas entendu. Parce que quand on a exprimé verbalement, c'est autre chose. Le fait d'exprimer verbalement, tout de suite, ça prend une autre dimension. Dans le chapitre 40, l'Admor HaZaken, il développe une notion encore plus puissante. Il dit que d'après beaucoup d'avis, dire quelque chose, c'est considéré comme agir. Je vais expliquer ce qu'il veut dire. Dans la Gemara, on pose la question suivante. Imaginez qu'il y a une personne qui a dit, je fais le neder de ne plus faire quoi que ce soit pour cette personne. Imaginez par exemple, monsieur Shimon m'a embêté. Il m'a embêté. Et j'ai dit, d'accord. Non, Shimon, on le connaît, il est très gentil. Monsieur, oui, bon, là, un nom qu'il n'y a pas ici, Gad, voilà, Gad.
Dupont.
Monsieur Dupont m'a embêté. Ah. Et j'ai fait le serment, d'accord. J'ai fait le serment, j'ai dit, je jure de ne plus faire quoi que ce soit pour monsieur Dupont.
On parle d'un juif, hein.
D'accord. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai juré de ne plus le faire. Faire, c'est agir. C'est une action. Après, bon, j'ai un peu regretté ce que j'ai dit, mais j'ai fait le néder. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, écoute, est-ce que tu peux parler pour monsieur Dupont? Il a besoin d'un service. Il me dit, juste, tu fais rien, juste tu parles, tu passes un coup de fil. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit?
Ah non.
Alors la Gemara pose la question. La Gemara dit, est-ce que la parole est considérée une action?
Bah oui.
Et donc, si tu dis que c'est considéré une action, ça reste dans le cadre de mon éder, c'est assourd. Si tu dis que c'est pas une parole, dans ce cas-là, c'est pas une action, dans ce cas-là, c'est permis. D'accord? La question, c'est est-ce que c'est une action ou pas une action? Qu'est-ce que tranche la Gemara là-bas? La Gemara, elle tranche que le fait de bouger les lèvres, ça s'appelle une action. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi la parole est très importante? Parce que le fait de dire quelque chose, tu es en train de matérialiser la chose. C'est comme si tu avais fait la chose. Alors quand c'est en pensée, c'est abstrait. Non, c'est pas pareil. S'il a fait un éder, par exemple, de pas lui parler ou de pas agir pour lui, sans que ça soit lié à une mitzvah. C'est le cas de la Gemara là-bas. Et la conclusion de la Gemara, dans le traité Nedarim, c'est que Akimat Sfatav avait maasé. Ça veut dire qu'on considère que le fait de bouger les lèvres, c'est considéré une action. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bouger les lèvres, ça fait quelque chose, ça génère quelque chose dans le monde.
Quand on mange, on agit. Oui. Ouais.
Ça, c'est du sport, je veux le dire.
C'est pour ça qu'on parle beaucoup de Lachon Hara et Lachon Atov. L'importance de bien parler et l'interdiction de mal parler. Le Yissour, c'est surtout de mal parler et le plus important, c'est de bien parler.
C'est quoi la différence entre bien parler et mal parler?
Eh bien, bien parler, c'est bien parler. Mal parler, c'est mal parler.
Non, dis la semaine dernière.
C'est très simple.
Regarde, pour avoir une,
un on dit par exemple. T'étais là ou quoi la semaine dernière? On a dit par exemple quand une personne se comporte mal, au lieu de se concentrer sur ses défauts, il faut se concentrer sur ses qualités. Bien parler, mal parler. Quand tu parles mal sur quelqu'un, tu développes ses défauts. Quand tu parles bien sur quelqu'un, tu développes ses qualités. Le fait de parler, c'est exprimer. Donc ça veut dire qu'on fait sortir quelque chose qui était comprimé à l'intérieur, bon, exprimé. Donc le fait de dire quelque chose, on fait ressortir une qualité ou un défaut caché à la personne. Ça veut dire quand tu vas dire à ton fils ou à ta fille imbécile, eh ben quelque part tu fais ressortir des défauts d'imbécilité chez lui. Quand tu lui dis mon fils que tu es intelligent, eh ben tu fais ressortir l'intelligence qui est en lui. C'est à moi de décider.
Je ne comprends pas mon fils.
C'est à nous de décider. Ça, c'est pour nous montrer l'importance de la parole. L'importance de la parole. Ma shekatou beznok ma shen ken beirou, alors que dans la pensée, et là, adiokan sheu shores ishmato. Que tout ce qu'on a expliqué, que la parole aura forcément un impact sur un de ces quatre niveaux qu'on a expliqué, soit le grand niveau des tzadikim, soit le niveau de la routine, ça c'est seulement quand on fait un dvar Torah, quand on parle avec la parole. Aval beirou, mais quand c'est en pensée, machanken beirou, quand c'est en pensée. Ouais. Alors là, à ce moment-là, c'est pas rien. Attention.
T'as pas même poids.
En bas, je ressentirai rien, mais par contre, on te dit, t'inquiète pas, ta neshama, ta copie en haut de ta neshama qui refait exactement à l'identique ce que tu fais en bas, elle le refait et elle comprend. Et quand tu monteras en haut, tu auras un compte qui est prêt pour toi en haut. Mais bon, ouais. C'est en haut.
C'est quand même une mitzvah.
C'est pas en bas. Oui, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. C'est pour ça que tu vas sur Internet, tu vas lire un Dvar Torah. Quand tu le lis avec tes yeux.
Tu
écoutes un cours.
C'est intéressant.
C'est mitzvah, pas de problème. Mais c'est pas aussi fort que si tu avais parlé. Quand tu parles, ta neshama, elle le vit beaucoup mieux. Bien sûr. Exactement. J'ai tout gagné.
Oui, mais quand t'as pas le niveau, malheureusement.
Mais toi, tu parles beaucoup en ce moment. Alors,
mais Mandy, mais donc, c'est-à-dire que quand celui qui a pas le niveau, il a pas la chance de pouvoir passer le niveau.
Celui qui quoi?
Celui qui a pas le niveau.
Pourquoi?
Moi, j'écoute des cours du Raviovis sur Internet.
Non,
tu ne veux pas parler.
Chez toi, à la maison, tu prends un chumash.
Oui.
T'arrives à prendre un chumash avec la traduction? Tu regardes, tu lis. Tu peux lire?
Ah oui, attends.
Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts.
Et Hachem par là.
Alors, tu peux dire, bon, pourquoi tu veux que je me prenne la tête à lire l'hébreu? C'est pas grave, je lis directement le français,
oui,
c'est
sûr,
tout.
Oui, c'est pour
d'accord, je lis rapidement, les yeux lisent rapidement. Je dis non. Lis les mots en hébreu d'abord. Vaïdaber, même si ça te prend 10 minutes. Vaïdaber, Hachem, El. C'est pas grave, parce que le fait même de lire les mots, ça imprègne en la personne. Très important de lire les mots, de dire les mots. Alors maintenant, il dit. Que quand on étudie la Torah qu'en pensée, là, dans ce cas-là, il n'y a plus ces quatre niveaux. Le seul niveau qui nous reste, c'est le fait que, bon, en même temps que j'étudie en bas, ma neshama en étudie. Donc, même si en bas, j'ai pas compris, elle, en haut, elle a compris.
C'est pas un niveau de routine.
Non, c'est pas, non, là, on rentre plus dedans. C'est-à-dire, là, quand on est en pensée, la neshama, on peut pas réellement, on peut vivre, mais, faut toujours dire, il faut lire les mots. Maintenant, lire les mots, il n'y a pas besoin que je m'entende. Il faut que l'élève bouge. Ma shekatou bezoar chelek gimel davkufhe deirur la vidmide. Maintenant, ce que le Zohar écrit, que deirur la vidmide, le Zohar dit qu'une pensée irur la vidmide, qu'une pensée ne fait rien. J'ai expliqué tout de suite de quoi le Zohar parle là-bas. Ve'ahinu afilu letav, et ça c'est même pour le bien. Ça veut dire quoi? Le Zohar, il y a un Zohar qui parle de la pensée, et le Zohar dit comme ça. Il dit, c'est écrit à propos de Shabbat, mimtzo cheftecha vedaber davar. Que la Torah nous a interdit le jour du Shabbat de parler des choses de Chol. C'est-à-dire pas seulement de faire des choses de Chol, mais le Shabbat, on n'a pas le droit de parler des choses de Chol. Le Zohar pose la question. Il dit, tu m'as parlé, j'ai pas le droit de faire des mélachot le Shabbat, c'est-à-dire j'ai pas le droit de travailler le Shabbat, tu me l'as dit. Tu m'as dit, j'ai pas le droit aussi de parler du travail et penser le travail, si j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit de penser au travail?
Normalement, non, mais bon. Mais...
D'accord?
Ça
pas écrit?
Ah oui.
Parce que toute la base, à la base dans la Torah, c'est écrit seulement que ça assure le travail. La Torah ne parle pas ni de la parole, ni de la pensée. Les prophètes, les Nevi'im ont rajouté, ils ont dit, Mimtso Heftecha Vedaber Davar. Ils ont dit, tu n'auras pas le droit de retrouver tes occupations, c'est-à-dire, tu n'auras pas le droit de travailler. Plus, ils ont rajouté, Vedaber Davar. Ils ont dit, plus, tu devras faire attention à ne pas en parler. Mais, on est resté seulement à la parole. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai le droit de penser à mes affaires Shabbat?
Il y a plein de péchés de Shabbat.
Mina Torah, Mina Din, il n'y a pas d'interdiction. Je repense à mon business. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar dit là-bas, il dit que parce qu'en vérité, alors attention, on va développer tout de suite. Le Zohar, il dit que une pensée ne fait rien. Le Zohar, pour expliquer le fait que il n'y a pas d'interdiction halakhique, c'est peut-être pas bien, mais il n'y a pas d'interdiction halakhique de penser à ces affaires. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas le droit de travailler? J'ai pas le droit d'en parler, mais y penser, j'ai le droit. Dit le Zohar, parce que irur la vie de midi, parce qu'une pensée ne fait rien. D'accord? Alors, la Morazaken, maintenant, il ouvre une parenthèse, il dit, est-ce que ça veut dire vraiment qu'une pensée ne fait rien?
Alors, quand tu fais un filin en pensée, ça fait rien?
Et il faut toujours dire en parole. Toujours.
Mais quand tu es dans
l'amida?
Quand tu fais en pensée, non, même l'amida, il faut, tu bouges les lèvres.
Bien sûr.
Tu t'entends ou tu t'entends pas, c'est pas la question. Le fait de bouger les lèvres, ça s'appelle une action. C'est le fait de bouger les lèvres. Le fait que le corps a bougé.
Tu bouges pas les lèvres, c'est mort.
Ah bah
c'est
oui.
Comme si t'as rien fait.
Mais c'est impossible, comment tu veux faire la mida sans bouger les lèvres?
Il y en a qui disent avec les yeux.
Ah non,
c'est pas bon ça.
Il faut le lire. Après la question, c'est est-ce que je dois m'entendre ou pas? Il faut bouger les lèvres.
Sans que tout le monde l'entende, bien sûr.
Mais c'est pas très faux parce que le Shabbat, tu vas tous les entendre.
Oui.
Non, mais il y a pas.
Non, mais c'est pour dire, tu sais que beaucoup de gens savent pas. Il y a beaucoup de gens savent pas qu'il faut bouger les lèvres.
Ils lisent avec les yeux.
Bien sûr, regarde.
Avec les yeux,
ah non, mais tout le monde.
Ils sont bouger les lèvres.
Non, c'est. Moi, je trouve que tu fais un grand mitzvah de Shabbat d'allonger. C'est vrai.
On le précisera. On le précisera.
Si je bouge pas les lèvres, je sais pas. Ça fait partie de.
Si tu le sens.
Je sais pas. Peut-être je sens, peut-être je sens pas. Mais a priori, je pense pas bouger les lèvres.
Dorénavant, tu bougeras les lèvres. Et je te verrai et je te surveillerai. Donc, a priori, c'est très dangereux ce que tu sors ici, a priori.
C'est la pensée ne veut rien.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la pensée ne veut rien? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux penser ce que je veux? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il dit le Zohar. Il va très loin, le Zohar. Il va encore plus loin. Je veux bien que la parole ait un impact particulier. Bon, ça n'est pas de problème. Ça, on le sent d'ailleurs. Quand on dit quelque chose, d'ailleurs, on le voit. Quand on est énervé contre quelqu'un, on avait expliqué une fois, on avait fait un cours dans lequel on avait dit que le rabbi donne toujours le conseil que quand on est énervé, de ne pas l'exprimer verbalement. Parce que le fait de l'exprimer verbalement, c'est comme de l'huile sur le feu.
Ouais, c'est clair.
D'accord? C'est-à-dire, quand t'es énervé sur quelqu'un, si tu le gardes dans ta tête, ça va baisser. Mais si tu vas en parler, c'est-à-dire tu vas dire oui, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, automatiquement ça va augmenter. Parce que la parole, c'est exprimer. T'es en train de développer quelque chose. Donc plus tu vas le. Bon, ça, j'ai pas besoin de le développer, on le sait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit ça, ça veut dire quoi? Le Zohar, il dit qu'une parole ne vaut rien? Une pensée ne vaut rien? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une pensée de Torah, ça vaut rien du tout? C'est très dur ce qu'il dit le Zohar. Je veux bien que la parole est importante, mais le Zohar dit les mots « irur la vie de bidé », qu'une pensée ne fait rien. Rien, rien, zéro, c'est-à-dire que ça vaut rien. Ça va à l'encontre de ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit qu'une pensée, ça vaut quelque chose, mais c'est pas aussi fort que la parole, mais ça vaut quelque chose. Alors comment expliquer ce que le Zohar dit? Qu'une pensée ne vaut rien? Et c'est là que le Morazaken va expliquer, va dire non, on a mal compris ce que le Zohar a dit. Bien sûr qu'une pensée vaut quelque chose, sinon c'est la porte ouverte à toute la verrotte. Imaginez une personne qui va dire oui, je peux penser à ce que je veux, toute la verrotte que je veux, tant que je ne les fais pas, il n'y a pas de problème. Ah, doucement, on va comme ça. La pensée, c'est très important. Et d'ailleurs, on le sent, comme il va dire après. On le sent que quand on a une pensée pas cachère, on sent comment ça nous bloque après. On sent comment quand on a pensé à quelque chose de pas cachère, quand après on vient à la choule, on essaye de prier, on essaye d'étudier, on sent qu'il y a un blocage. On sent qu'il y a des images qui nous reviennent, on sent qu'il y a des mots qui nous reviennent, on sent qu'il y a un blocage. Parce que c'est sûr, la pensée, ça fait quelque chose. On ne peut pas dire qu'une pensée ne fait rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il veut dire le Zohar quand le Zohar dit qu'une pensée ne fait rien? C'est là qu'il va expliquer. Ma shikatou bezohar. Ce qui est écrit dans le Zohar. Chelek gimel dafkoufé. Ce qui est écrit, donc vous avez dans les mots? Allez, on prend dans les mots. Donc la ligne qui commence par Bezohar. Septième ligne. Ce qui est écrit dans le Zohar, volume 3, page 105. Deir ur la vid midé. Voilà, si vous voulez vérifier, vous avez la référence. Alors, Deir ur la vid midé. Ce qui est écrit dans le Zohar, qu'une pensée ne fait rien, veille no afilou l'étav. Ça voudrait dire qu'une pensée ne fait rien. C'est vrai que le Zohar a parlé par rapport à une pensée interdite le Shabbat. Ça veut dire penser à ses affaires le Shabbat. Et il a dit que c'est pas interdit. Mais puisque le Zohar a dit qu'une pensée ne fait rien, il a expliqué ça par rapport à une avéra, mais ça devrait être applicable aussi pour une mitzvah, qu'une pensée ne vaut rien. Ça veut dire vraiment qu'une pensée ne vaut rien. C'est grave de dire ça. Il dit, Ayen, Sham, il dit, regarde bien ce que dit le Zohar là-bas. Ou Bedaf, Lamed, Alef, Amoudbet. Regarde aussi ce qu'il dit dans la page 31b. Bon, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Là-bas, il explique, en vérité, il explique autre chose. Il dit pas du tout. Il dit qu'en vérité, de quoi il parle le Zohar là-bas? Le Zohar, il parle de la notion de Itaruta d'Ilela, du réveil d'en haut. Ça veut dire, est-ce que Dieu communique avec la personne? Et là-bas, le Zohar, il dit comme ça. Il dit, tant que tu fais une chose en pensée, tu ne vas pas générer une communication de Dieu envers toi. Tu vas pas sentir que Dieu s'adresse à toi. Quand le Zohar a dit qu'une pensée ne fait rien, ça veut pas dire, Chas v'Shalom, qu'une pensée ne fait rien. Ça veut simplement dire que quand tu étudies la Torah seulement en pensée, quand tu fais seulement en pensée, ça ne génère pas une communication venant de Dieu vers toi. Une communication du haut vers le bas. Mais il va expliquer un grand ridouche. Il va dire, mais quand on va de l'autre côté, ça veut dire du bas vers le haut, moi qui parle à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas parler à Kadosh Baruch Hu si tu n'as pas la pensée. Vous voyez comment il va à l'envers? Je reprends, c'est un peu fin ce qu'il va dire ici. C'est pour ça que je vous écris, vous avez 10 heures aujourd'hui. Je répète. Il dit, on a expliqué longuement, depuis le début du cours, comment il y a la parole et il y a la pensée. Étudier la Torah en parole, étudier la Torah en pensée. On a expliqué que quand on étudie la Torah en pensée, Maneshama en haut étudie la même chose. D'accord? Mais c'est pas forcément que je vais le ressentir. Quand j'étudie la Torah en parole, qu'est-ce qui se passe? Je vais atteindre un des quatre niveaux. Ça, on l'a expliqué. Le problème, c'est qu'il y a un Zohar qui dit que la pensée ne fait rien.
La pensée du Shabbat.
Non, le Zohar dit à propos de ça, mais de là, il dit que la pensée ne fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire la pensée ne fait rien? Le dit l'Admor HaZaken, il ne faut pas mal comprendre ce Zohar. Quand le Zohar te dit que la pensée ne fait rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais que penser à quelque chose, c'est pas assez fort pour que tu sentes comme un boomerang que j'ai envoyé la balle vers Dieu et Dieu m'a renvoyé la balle. C'est pas parti assez loin. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, que la parole, ça fend les cieux. Quand ça fend les cieux, donc ça te revient. Quand le Zohar a dit que la pensée ne fait rien, ça veut dire qu'elle n'est pas assez forte pour qu'elle revienne vers toi. Mais il dit, l'Admor HaZaken, il dit, ça c'est seulement pour te dire que tu vas pas ressentir que Dieu se retourne vers toi. Mais c'est évident que toute personne qui veut parler convenablement à Kadosh Baruch Hu doit obligatoirement mêler sa pensée. Celui va dire après, mais quelle valeur ça a quand une personne est en train de lire un Dvar Torah, quand une personne est en train de lire la Tfila, et que sa pensée n'est pas là, il pense à ses affaires. Mais ça vaut rien. C'est cachère, mais ça vaut rien. Vous voyez ce qu'il veut dire ici? Ça veut dire, la parole c'est très important, la parole ça fend les cieux, la parole c'est très important. Mais si une personne veut réellement sentir qu'il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il faut aussi la penser. Il faut sentir qu'on vit la chose.
C'est bizarre.
Alors,
c'est bizarre parce qu'en réalité, la pensée, c'est immatériel.
Oui.
Et la parole, c'est matériel.
Oui.
C'est bizarre qu'il y a plus d'importance dans le matériel que dans l'immatériel.
Bien sûr, parce que le plus important, comme on a expliqué, c'est que la parole, elle a cette capacité de fendre les cieux. Et donc, quand tu fends les cieux, tu sens comment... C'est comme quand tu tires une balle. Quand tu tires une balle et que c'est rentré dans les cages, bah, tu sens que tu as atteint les cages. Par contre, quand tu tires une balle dans le terrain en vrac, bon, bah, tu sens pas ce que ça a fait. C'est un peu ça la différence. Quand tu fais Bédibour avec la parole, tu sens que tu es tapé dans les cages. Mais quand tu dis juste avec la pensée, bon, c'est abstrait, c'est pas clair. Bon, on a juste bougé la balle dans le terrain. Vous avez compris avec le terrain, là, David? D'accord? Ça, c'est la pensée, la parole. Mais dis, l'Admor HaZaken, attention, faut pas mal comprendre ce Zohar. Quand le Zohar te dit que la pensée ne fait rien, ça veut pas dire qu'elle fait rien. Ça veut dire qu'elle n'a pas le même effet que la parole, elle n'a pas cet effet que tu sens que t'as atteint quelque chose et que ça te revient. Mais Chas V'Shalom veut dire qu'une pensée ne fait rien. Au contraire! Comment tu veux parler à Dieu si t'as pas la pensée qui est là? Comment tu veux faire une tfila? En même temps, tu penses à tes affaires. C'est impossible, ça marche pas, cette fila. Elle est peut-être cachée, mais cette fila, c'est... Qu'est-ce qu'elle vaut, cette fila, si t'as pensé à tes affaires? On raconte une fois, hein, il y a un rave, en plaisantant, il est parti voir une fois un fidèle après la prière, et il lui a dit, après la Amida, et il lui a dit, Baruch Haba, bienvenue dans notre communauté. Alors le fidèle, il se tourne vers le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, je suis là tous les matins, je suis là tous les soirs. Il m'avait dit bonjour tout à l'heure, il dit non. Je lui dis bonjour parce que certainement t'es parti dans ta tête pendant la Midah, t'es parti à Hong Kong, t'es parti en Israël, t'es parti pendant tes affaires. Et maintenant que t'es redescendu sur terre avec nous, alors je lui dis bonjour. c'est une blague. Mais c'est pour nous dire que des fois dans la Midah, on part. Tu dis, mais attends, oui, la marche à va, c'est important. Donc Chas V'Shalom de dire que la pensée n'est pas importante. Donc vous voyez comment, encore une fois, on revient à ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On jongle beaucoup. D'un côté, on te dit que la parole est importante. Il faut étudier un Dvar Torah, on a expliqué, je pense que ce qu'on va retenir d'aujourd'hui, c'est l'importance, quand on étudie la Torah, d'essayer de parler. Dvar Torah. Mais étudier d'un autre côté, s'arrêter que à ça, qu'est-ce que ça vaut? Si tu fais que ça sans comprendre, sans vivre ce que tu dis, sans la penser, ça vaut rien. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'arranger à d'abord commencer à parler, et la parole va amener la pensée. Et c'est remarqué, hein, c'est comme ça aussi qu'on fait quand on éduque les enfants. Quand on éduque les enfants, même à l'école, comment on fait? D'abord on les apprend à lire. Lire, lire, lire. Et après, on leur apprend la traduction, on leur apprend ce que ça veut dire. Parce que d'abord, il faut commencer à lire. Il faut commencer d'abord à lire le dibour, le dibour, le dibour. Et après, la marchava. Mais il faut arriver à la marchava. La marchava, c'est la deuxième phase. Si t'as pas la pensée, à quoi ça sert? C'est ce qu'il dit ici. Est-ce que c'est clair ou je repasse?
Non.
Clair, monsieur Trigolo? Monsieur Trigolo, il faut le servir un peu de bourra. J'avais pris un peu de Zohar. Les Tunisiens, ils aiment bien le Zohar, non?
Ouais.
Voilà, alors. Non, parce que quand on lit le Zohar, hein, c'est vrai que des fois on comprend pas tout, mais on sent que ça nous dépasse, on sent qu'il y a quelque chose de puissant. C'est comme quand on va voir un tzaddik. Est-ce qu'on est là à dire, oui, tel tzaddik était grand comme ça, et tel tzaddik était grand comme ça, qui on est pour mesurer? Mais quand la Neshama, elle sent ce qui nous dépasse, on aime sentir ce qui nous dépasse, on aime sentir qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous, que ça nous dépasse. Ça fait vibrer la Neshama. C'est pas quand on lit le Zohar, on comprend pas tout forcément, mais ça nous permet au moins de vibrer et de sentir qu'il y a quelque chose qui me dépasse. c'est ce qu'il dit ici dans les mots. Yesh lomar, daïnou, leit ara le ela, shiyum shach misham le tata, rak marshavto nishar hacham, ou mosif hacham or gadol. Ça, c'est ce que j'explique à l'oral. Betosefat veribouya or batsilut, elle est des mikra, sheikar echoud du lemala, rak a perot, en baolamaze, elle est des amchachat or meat misar. Machen ken beirou, le nim shachklum, velachen, le yatsa yede chovato. Machiarden, je pote olamazar, et le mishar otenin madad. D'accord. Maintenant, on comprend la raison. Tout à l'heure, Michael t'a posé la question. Tu as dit, est-ce qu'une personne peut faire la tefila avec la pensée? Par exemple, si je veux lire le schéma avec la pensée, est-ce que je peux lire le schéma avec la pensée?
Oui, il faut d'accord dire...
Non, mais est-ce que si je veux le lire avec la pensée, pas avec les bons? J'ouvre le livre, mais je regarde avec mes yeux.
On ne s'acquitte pas.
Est-ce que je suis quitte? Je ne suis pas quitte. Pourquoi je ne suis pas quitte? Parce qu'il faut le dire. Pourquoi il faut le dire? Parce que c'est quoi le but du schéma? Le but du schéma, c'est qu'il faut que tu sentes que tu as parlé à Dieu et que tu as tapé dans les cages. Et que ça te revient. Mais si tu vas juste être là pour brasser du vent, pour dire oui, voilà, on a dit des phrases, j'ai lu des phrases et que ça n'a rien fait, ça sert à rien. Donc c'est voilà pourquoi c'est très important de dire le schéma. D'ailleurs, comme Yonel a dit, on dit bien le kriya de schéma.
Donc il faut pas seulement le
mais dire, même si tu as compris ce que tu as lu.
Non, ça c'est la deuxième phase.
La pensée.
Non, ça vient en phase numéro 2. D'abord, dibour. Dibour, c'est la parole, c'est le plus important. Le lire, c'est plus important que le comprendre. Après, en deuxième phase, tu vas essayer de le comprendre. D'accord? Mais d'abord, il faut le lire. C'est pour ça que c'est très important d'abord à bien apprendre à lire. Je pense qu'avant même d'apprendre la traduction, en tout cas, c'est comme ça qu'on a fait à l'école. Avant même d'apprendre la traduction, d'abord, on apprend à bien lire. Parce qu'avant de passer à la marchava, il faut d'abord maîtriser parfaitement le dibour. Ce qui est logique.
Même si tu l'as fait avec la pensée, en ayant compris avec la kavana, ça sert
ça
à rien.
Ça vaut rien, zéro.
Ça vaut rien, faut ça quand rien même parler.
Ça vaut rien. J'ai peut-être fait la misère d'étudier la Torah, mais j'ai pas fait
non,
la misère d'étudier.
Tu fais le schéma, par exemple.
Ça vaut rien.
Ça vaut rien.
Il faut kriat shema, akore et shema. Nematai korin et shema bervin. Il faut lire le schéma. Donc, velachen, lo yatsai de chobato, c'est pour ça que celui qui pense seulement au schéma, il n'est pas quitte. Mashiarda nishmato lo lamaze, rak lamshir rorot elonim le mata. Alors maintenant, avec ça, Michael, je suis en train de te dire qu'on répond à ta question. Tout à l'heure, tu as dit, c'est quand même curieux qu'on te dit que pour des choses spirituelles, on va favoriser le matériel. Ça veut dire, moi, mon but, c'est de communiquer avec Dieu. Tu me dis, pour communiquer avec Dieu, ne communique pas avec l'abstrait, donc ce qui se rapproche le plus du spirituel, mais communique avec le matériel, avec la parole. Ta question, c'est que c'est pas logique. Normalement, pour communiquer avec le spirituel, on aurait dû se servir de ce qu'on a de plus spirituel, et ce qu'on a de plus abstrait, oui, plus spirituel, c'est la pensée. Non, c'est ta question. Oui. Réponse de la Admorah Zaken. En trois mots, il répond à ta question, tu vois. Ouais, moi, quand j'avais préparé ce cours, bon, j'ai lu comme ça, mais j'avais pas pensé qu'il répondait à... Quand t'as posé la question, j'ai compris pourquoi il a rajouté ces quelques mots.
Il dit, communication, lui.
Ah, la communication. Il dit que, en vérité, pourquoi c'est comme ça? Parce que la raison pour laquelle la Neshama est descendue ici bas sur terre, c'est pour faire descendre la Shrina ici bas sur terre. Donc quand tu as une pensée, qu'est-ce qui se passe quand tu as une pensée? Quand tu as une pensée, c'est comme si tu as un récepteur qui est ici bas et qui envoie un message perdu comme ça vers l'émetteur. Il n'est pas perdu, mais bon, le message ne lui revient pas. D'accord? Mais quand tu vas dire quelque chose, comme on a expliqué que ça fend les cieux, ça va monter en haut et le satellite il te renvoie. Puisque le but pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a créé, c'est quoi? C'est de descendre en bas. Donc, tous les moyens sont bons pour faire en sorte que ça redescende. Voilà pourquoi le dibour est important. Donc, on va favoriser des actes matériels, parce que le but, c'est que ça redescende le plus bas possible sur Terre. Ça, c'est la raison pour laquelle... Ça, il a dit en trois mots. Hein, c'est...
Pour récupérer les étincelles.
Oui, mais on le dit, les brachot, encore une fois. Parce que le but, c'est de refaire descendre. Si le but était simplement de communiquer avec Dieu, comme dans d'autres sectes, d'autres religions, le but, c'est que l'homme doit aller vers le haut. Là, dans ce cas-là, plus c'est abstrait, mieux c'est. Plus c'est en pensée, mieux c'est. Mais chez nous, c'est pas comme ça.
La méditation.
Exactement. Enfin, chez nous, la méditation, le but de la méditation, c'est soit de t'amener à la parole, ou soit de mieux vivre la parole que tu viens d'avoir. Mais le but, c'est la parole. Le but, c'est l'action. Le but, c'est le signal qui redescend en bas.
Donc, dibour en silence, ça marche.
Bien sûr. Parce que les lèvres ont bougé. Les lèvres ont bougé. Après, c'est une marloquette. Il y en a qui disent que, est-ce que quand on fait la mida, nos oreilles doivent entendre ce qu'on dit?
Ah, ouais, si on l'avait fait un cours.
Quand on avait fait un cours sur ça, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, c'est une marloquette. Aval, les alot, mata, les mala, ou davka, aliede, marshava, tova. Mais il dit, il est évident qu'avec tout ce qu'on a expliqué, l'importance de la parole, et que c'est très important, et que c'est la parole qui nous permet le retour du signal. On a bien compris ça. Que quand je vais avec la parole, j'envoie un message, et ce message me revient. Comme, vous savez, comme il y a avec les satellites. Voilà. Le satellite t'envoie un signal. Alors après, soit le signal, il est perdu. Enfin, il est jamais perdu, mais tu sais pas où il est parti. Soit il revient. La marche à bas, c'est comme voilà, c'est en vrac. Bon, j'ai eu des pensées comme ça. J'envoie un signal, mais je sais pas où il est allé, je sais pas où il est revenu, j'en sais rien. Quand tu as un dibour, tu envoies un signal et le signal, il te revient. Et ça, c'est le but. Le but, c'est que ça redescende. C'est très bien. Mais il te dit, ce qu'on a expliqué, que la marche, que le dibourg, c'est plus important. Hein. Ça, c'est vrai que c'est notre but. Mais il dit, attention. Il dit, c'est évident que pour réellement envoyer un vrai signal, il faut la marche avant, il faut la pensée. Je répète. Ça veut dire, le plus important, c'est le dibourg. Parce que le dibourg, ça te permet, on a dit, d'envoyer un signal qui revient vers toi. Ça, c'est très clair. Mais si tu veux maintenant vivre l'événement, si tu veux vivre ce que tu fais, on est obligé à un moment ou à un autre à passer à la phase numéro 2. La phase numéro 2, c'est qu'il faut commencer à comprendre ce qu'on dit.
Il faut comprendre ton encore message, sinon la réponse, tu ne comprendras jamais la réponse. Tu
non, le message est très simple. Le message est qu'en phase numéro 1, on a du dibourg, on n'a que de la parole. Ça veut dire qu'on te dit parle, agis, et c'est ça le plus important. Mais après, en phase numéro 2...
Il m'a dit tu parles trop, là, il faudrait savoir.
Après, en phase numéro 2, une fois que Baruch HaShem, t'es déjà en vitesse de croisière, il faut ouvrir le capot maintenant. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut mettre les mains dans le... Il faut comprendre ce qui se passe. On lit des mots, on lit... Qu'est-ce que tu lis? Tu parles 3 cadeaux, c'est même pas ce que tu as lu? C'est honteux, la vérité. Mais là, on peut avoir 30, 40, 50, 60 ans. Tu parles pendant 3 quarts d'heure, c'est pas ce que tu as lu. Non,
mais t'as quand même fait une mitzvah.
Y a pas de problème. On a dit c'est très important. C'est très important. Mais après, à un certain moment, il faut passer à la deuxième. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. Kumo Shekatouv, Beshar Anevoa Perekbet, Vamarshava Tova. Donc c'est ce qu'il dit ici, que dans Shar Anevoa de Rabbi Chaim Vital.
C'est une obligation de passer à la deuxième ou alors on peut rester toute la vie en première?
Tu peux, si tu veux rester en première. Tu peux rester en première.
Ça va.
Ouais, mais tu pousses trop le moteur.
Tu pousses trop long, il va pas caler, mais bon, c'est dommage quoi. C'est
un choix de m'avancer. C'est-à-dire, on peut rester en automatique, tranquille, en drive, on est tranquille.
Ouais, mais là tu vas rester au premier niveau.
Il faut passer à la deuxième.
Obligatoirement.
Il faut passer à la deuxième.
Enfin, il y a la mesure de l'effort.
Oui. La mesure de l'effort, c'est ce qui vient en deuxième. Voilà, exactement. La mesure de l'effort, de la marchava, de la pensée. C'est-à-dire qu'au début, quand on fait teshuva, d'abord, on doit travailler sur ses actions. Faire en sorte que mes actions soient le plus cachères possible. Les pensées, on verra après. Mais après, une fois que Baruch HaShem, ça y est, on fait son Shabbat, on fait cette filote, etc. C'est-à-dire qu'on a pris le pli. Après, il faut essayer de travailler sur les pensées. D'avoir des pensées cachères. D'accord?
D'un côté, on te dit, tu commences par bien faire les choses. Et Dieu, il va t'aider. Et de l'autre côté, on te dit, plus tu pousses le bouchon, le puissance mètre, le bouton, tu le pousses haut, vers le haut,
oui.
Et plus le bon Dieu, il t'envoie aussi un yesser, oui. Qui est
proportionnel.
Plus en plus fort.
Oui, ah oui. C'est pas grave, c'est normal, c'est ça le but de la vie.
C'est chaud quand même.
Bah, chaque moment, c'est challenge.
Soit il aide, soit il met
Oui, mais quand
il t'aide, parce que maintenant, tu le reconnais. Quand tu le reconnais,
quand on comprend, on vit différemment.
Pas évident que tu le reconnaisses.
Quand on comprend, on vit différemment.
Qu'il est là, quoi, alors qu'avant.
Quand on comprend ce qui nous arrive, quand on comprend ce qu'on fait, on le vit différemment.
C'est
pas une corvée. Avant, venir à la synagogue, on n'est pas venu pour écouter des chants. On n'est pas venu pour rester assis sur une chaise 4 heures. Je sais qu'ils sont quittes. C'est très bien ce qu'ils font. Ils ont la parole. La parole, c'est déjà très bien. Mais après, à un certain moment, il faut se dire attends, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Il faut passer à la deuxième. Il faut passer à la marchava, ce qu'il dit ici. Et en vérité, c'est quoi la marchava? La marchava, hein, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, hein, c'est ce qui va te permettre de générer un l'amour, de générer une crainte. Ça veut dire d'essayer d'avoir des sentiments envers ce que tu dis. Un sentiment d'amour, un sentiment de répréhension envers certaines choses, un sentiment d'attirant envers certaines choses. Tu ne peux pas faire les choses par la routine. La routine, c'est bien beau au début, mais après, ça ne marche plus. Donc, Vaïnou, Bemikol Shekam Itvarim Betelim, Demida Tova, d'accord, Demida Tova Merouba. Il dit là-bas dans le Zohar, il te dit maintenant, l'Admor HaZaken, il te donne une preuve. Il te dit qu'attention, il ne faut pas mal comprendre ce que le Zohar a dit, qu'une pensée ne fait rien. Quand on te dit qu'une pensée ne fait rien, ça veut dire simplement qu'elle ne renvoie pas le signal. Mais bien sûr qu'une pensée fait quelque chose. Vous savez d'où tire ça l'Admor HaZaken? Il dit, c'est très simple. Il dit parce que le Zohar, là-bas, hein, dans un autre endroit, hein, il explique la gravité des Dvarim Betelim. C'est quoi les Dvarim Betelim? Dvarim Betelim, c'est les paroles vaines.
Futile.
Vous savez, des fois, quand on veut passer des heures à parler de rien, à rien faire. D'accord. À rien faire. On peut rester assis. Dans le vide. Dvarim Betelim. Et là-bas, le Zohar, il parle de la gravité de Dvarim Betelim. Et il dit, ce qui est dérangeant, Dvarim Betelim. Betelim. C'est les paroles vaines. Les paroles qui servent à rien.
Futile.
C'est pas des paroles interdites. C'est parler de rien, parler du vent, de la pluie et du beau temps. Ça sert à rien. C'est une perte de temps. Tu perds ton temps. Ça, c'est les Dvarim Betelim. Ou bien voilà, par exemple, des fois, on peut aller sur Internet, tu vas rechercher un truc et tu sais pas pourquoi, mais du coup, t'as cherché 10 000 trucs et le temps est passé, 2 heures sont passées, tu sais pas comment. Ça s'appelle Dvarim Betelim. C'est le Dvarim Betelim moderne, ça. Alors, dit le Zohar là-bas. Le Zohar là-bas, il parle de la gravité des Dvarim Betelim. Il dit que la Neshama doit constamment être occupée. Le travail, c'est une occupation. Mais ce que la Neshama ne supporte pas, c'est quand on fait rien. Quand on bulle. Ouais. Et ça, là-bas, le Zohar, il dit que ni la Neshama ne supporte.
On n'a pas le droit de rien faire.
Non, je peux me reposer. Je peux me reposer. J'ai pas dit de pas me reposer.
J'ai
dit, des fois, rien faire pour rien faire. Rien faire pour rien faire. Et dit le Zohar que ça, c'est quelque chose que la Neshama ne supporte pas. Et encore moins le corps. Le corps ne supporte pas ne pas être en action. Il a toujours tourné. C'est un moteur de tourner. Tu étais là en train de lui dire, hop, stop, après tu vois, on repart, tu le tues le moteur. Il faut le faire tourner. Maintenant, bien sûr que des fois, tu vas te reposer, pas de problème. Mais, des fois, passer du temps, Dvarim Betelim à rien faire, le Zohar dit que c'est pas bien. Et ça, dit l'Admor HaZaken, c'est une preuve de ce qu'on a expliqué, que Chas V'Shalom, il faut pas penser que la pensée n'a pas d'importance, la pensée a son importance. La preuve, c'est que, on te dit que c'est grave de dire des paroles vaines ou de passer son temps à rien faire, parce que c'est important de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à ce qu'on fait. Même la Marshava est importante. Mais, attention, dit le Zohar, la Marshava vient seulement en second plan. C'est-à-dire, d'abord, on va demander à une personne de faire un effort sur son action, et après seulement, on va lui demander de passer à sa marche avant. Je pense qu'on peut comparer un petit peu ça, je finirai avec ça pour aujourd'hui, au Naaseh v'Nishma.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Et quand les Bnei Israël, ont avancé, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu leur a dit? Il leur a dit Naaseh v'Nishma. C'est quoi Naaseh v'Nishma? D'abord on fait, après on comprend. D'abord on parle, après on réfléchit. Et d'ailleurs, la Gemara raconte, elle dit qu'il y a une fois, un ministre, Goy, qui est venu voir Rava, dans la Gemara. Il est venu le voir, il a dit, vous êtes un peuple bête. Vous êtes un peuple bête qui réfléchit pas. Il dit, oui, il dit, votre bouche est passée avant votre oreille. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, d'abord on fait, après on va comprendre. Ça veut dire que, d'abord on parle, et après on veut comprendre ce qu'on a dit. Donc, il y a un goy qui a dit, à un ministre goy qui est un non-juif, qui a dit à Rava, il a dit, vous êtes un peuple bête. Et Rava n'a pas répondu. Et les commentaires s'arrêtent pour comprendre qu'en vérité, que Rava n'a pas répondu parce que Rava a pris ça pour un compliment. Rava a pris ça pour un compliment, oui, bien sûr. Des fois, le fait de foncer, et après, d'essayer de comprendre où on s'est lancé, c'est un chevar, c'est une louange. D'abord la parole, après la pensée. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Voilà pourquoi c'est important de dire des divrei Torah. Même si on comprend pas forcément à 100%, c'est important de dire la tefila, même si on comprend pas à 100%, d'accord? Il faut le dire, et le fait de le dire, ça nous permet de, que la Neshama le vive, au moins dans un des quatre niveaux qu'on a développés. Mais, en seconde phase, il faut passer après à la phase de la Marshava, à la phase de la pensée. Voilà, on s'arrête là pour cette lettre, on est terminé là-bas au prochain. Ok? Allez, nous, rééquilibre, voilà. Bon, après, ça, j'explique à l'oral déjà. Morazaken, il dit dans la suite, il dit qu'en vérité, sans Marshava, sans pensée, on peut pas réellement décoller.
Tu veux faire la paix?
Ah oui, il faut la réflexion.
Mais c'est en seconde phase. On va faire, tout ça va vite.
On va essayer de voir ce qu'il a fait.
Bon, Rabotek, comme j'ai dit au début du cours, on va faire un effort pour commencer à l'heure. La semaine prochaine, je commencerai à 8h30.
Acheter à 8h.
D'accord, voilà. On va commencer à 8h30. Non, comme ça, parce qu'après, des fois, il y en a qui doivent partir à bon quart, etc. Ça, on commence à l'heure, on finit à l'heure. Normalement, le cours, c'est 8h30, 10h moins quart.
10h moins quart, la fin.
Normalement, oui, mais comme on commence tard. Alors, David, Dibourg ou Marshava?
Le fromage, c'est Dibourg. Non, le fromage, c'est le dibourg.
Le Morazaké lui dit que pour vivre le dibourg, pour que le dibourg il décolle, on est obligé de mettre l'amour et la crainte dedans. Et l'amour et la crainte peuvent venir qu'avec la pensée.
Bah ouais.
Donc après, à un certain moment, si on veut que ça décolle, il faut... Le signal, tu le ressens après, mais...
Je dirai ça les prochaines semaines.
Allez.
J'attends la suite.
Bon, je vous rappelle, Rabotai, que Bezrat Hashem, dans un mois et demi... Après, il y a une tête qui se lève. On recommencera un nouveau cycle du Tania. Donc, parlez-en. Et peut-être qu'on serait, je pense qu'on sera tellement nombreux, si Dieu veut, que peut-être on fera le cours dans notre salle.
Ah oui, bah, amen.
Hein? Ah, parce que... amen.
Alors, on recrute.